France Culture.
Les informations sont présentées ce midi par Julie Paco. Bonjour Julie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Capgemini fait le tri. Le géant français de l'informatique en pleine tourmente après les révélations de sa collaboration avec la police fédérale de l'immigration aux États-Unis annonce ce matin la vente de sa filiale américaine. Une réouverture très restreinte et réservée aux piétons. Après des mois de blocage, le point de passage de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza rouvert ses portes sous très haute surveillance israélienne, nous le verrons. Et puis nous irons au Costa Rica, la Suisse de l'Amérique latine qui pourrait bien basculer dans un régime autoritaire. À l'occasion des élections présidentielles, aujourd'hui, notre invitée est Tania Rodriguez Echavarria, professeure de sciences politiques à l'Université du Costa Rica. Face au tollé provoqué par les révélations la semaine dernière de sa coopération avec l'ICE, Capgemini met en vente une de ses filiales travaillant pour la police fédérale de l'immigration aux États-Unis. Le géant français de l'informatique, fleuron du CAC 40, qui a fourni à l'ICE un outil d'identification et de localisation de personnes étrangères, tente donc d'éteindre l'incendie ce matin dans un communiqué. Bonjour Valentin Gréhir.
Bonjour Julie.
Capgemini souligne que la cession de cette filiale sera initiée immédiatement.
Oui, la fin de semaine a été mouvementée au sein de Capgemini avec un conseil d'administration extraordinaire convoqué ce samedi. Il a donc débouché sur une décision stricte avec mise en effet immédiate. Communiqué de 4 lignes à peine publié ce dimanche où le cabinet s'explique les contraintes légales habituelles imposées aux États-Unis pour contracter avec des entités fédérales. Je cite, ne permet et pas au groupe d'exercer un contrôle approprié sur les opérations de cette filiale. En langage courant, Capgemini explique donc que le groupe n'avait pas conscience des missions exercées par cette filiale américaine baptisée CGS et chargée de travailler avec les agences fédérales. C'est un argument déjà brandi plus tôt dans la semaine par son PDG, Ayman Ezzat. Il rappelait qu'elle opère sous un accord spécial de sécurité et sous le contrôle d'administrateurs américains indépendants, sous les radars donc de Capgemini.
Alors Valentin, de nouveaux éléments publiés dans la presse tentent à démontrer le contraire.
Oui, c'est l'observatoire des multinationales déjà à l'origine des premières révélations qui enfonce le clou hier. Contrairement à ce que dit le groupe, la collaboration avec l'ICE n'a pas démarré en décembre et sur un seul contrat, lequel serait désormais suspendu du fait d'un recours de l'entreprise française. Capgemini aurait dès octobre été au courant que ses missions avec l'ICE incluraient du skip tracing, de la traque de cibles pour la police migratoire et CGS de décrocher le 31 octobre dernier un marché de 365 millions de dollars aux États-Unis pour fournir explicitement ce type de service. Capgemini veut désormais surtout limiter la casse pour sa réputation. Son PDG évoquait à demi-mot cette semaine la possibilité d'instaurer une clause de conscience pour les employés qui voudraient quitter l'entreprise.
Explication de Valentin Gréhir pour France Culture. Les dérives des agents fédéraux de l'ICE qui ont abattu 2 Américains à Minneapolis le mois dernier, qui multiplient depuis un an les arrestations brutales de migrants, parfois âgés de 5 ans seulement, font l'objet d'une contestation de plus en plus massive aux États-Unis, où des milliers de personnes sont encore descendues dans les rues de Minneapolis. Police vendredi. Ce tournant répressif opéré par l'administration de Donald Trump sera immanquablement dénoncé ce soir lors de la cérémonie des Grammy Awards, les Oscars de la musique à Los Angeles. Parmi les artistes les plus nommés, le rappeur Kendrick Lamar, cité 9 fois, Lady Gaga ou encore la superstar portoricaine très attendue au Super Bowl dans une semaine, Bad Bunny. Loïc Piala.
Une partie de l'Amérique a découvert Bad Bunny quand il a annoncé que sa tournée ne passerait pas par les États-Unis à cause des raids de ICE. Alors sa présence aux Grammy Awards, il est nommé 6 fois, suffit à en faire une soirée politique. Pas dit toutefois qu'il fasse de grands discours, à la différence de Lady Gaga, cette nomination. La star en concert à Tokyo cette semaine a parlé de la situation dans son pays.
My heart is aching. Mon cœur souffre quand je pense aux enfants, aux familles traquées sans pitié par ICE à travers l'Amérique. Je pense à tout ce qu'ils traversent et comment leurs vies sont détruites juste devant nos yeux.
Moins connu, Jesse Wells, nommé 4 fois, pourrait avoir quelque chose à dire. À l'automne, le jeune artiste folk a sorti un morceau, Join ICE, critique de l'agence et de ceux qui la composent. Join ICE, boy, ain't it nice. Rejoins ICE, c'est sympa, dit la chanson. Si tu manques de contrôle et d'autorité, viens avec moi, on va chasser des minorités.
Loïc Piala, correspondant de France Culture à Los Angeles. C'est une réouverture très limitée, mais une réouverture qui donne de l'espoir à toute une population, d'après le Comité international de la Croix-Rouge. Israël a donc rouvert partiellement le point de passage de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza, conformément à l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre dernier. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Julie, bonjour à tous.
Correspondant de RFI à Jérusalem pour France Culture, la réouverture de ce passage de Rafah, fermé depuis mai 2024, est limitée aux habitants du territoire palestinien.
Oui, alors c'est une lueur d'espoir très encadrée, presque chirurgicale. Pour l'instant, le terminal ne s'ouvre qu'aux piétons, pas aux marchandises. On parle d'un flux restreint, environ 150 personnes par jour acheminées par bus. Côté logistique, c'est un montage complexe. Des agents de l'autorité palestinienne gèrent les opérations sous l'œil des observateurs de l'Union européenne, le BAM, mais le verrou reste israélien. Chaque voyageur doit obtenir un feu vert sécuritaire préalable d'Israël. Pour ceux qui entrent dans l'enclave, l'armée israélienne effectue même un second filtrage dans un couloir dédié juste derrière la frontière. Ce dimanche sert surtout de répétition générale pour tester les systèmes d'identification.
Et cette réouverture intervient dans un climat paradoxal, Michel, entre l'espoir d'une trêve et une reprise de la violence. Quel est finalement l'enjeu politique derrière ?
Le paradoxe est total en effet. Samedi encore, des frappes ont fait 32 morts dans l'enclave, le bilan le plus lourd depuis le début de la trêve. Mais les deux facteurs qui ont débloqué la situation, d'abord le rapatriement récent de la dépouille de Rangvili, le dernier otage aux mains du Hamas. Ensuite, cette réouverture de Rafah pourrait être le prélude à des discussions cruciales sur le désarmement du Hamas. L'idée serait de laisser une administration palestinienne technocratique, négocier directement avec le mouvement islamiste. En attendant, sur le plan humanitaire, c'est une goutte d'eau. Une dizaine d'ambulances s'apprêtent à évacuer des blessés, mais pour les millions de Gazaouis privés de tout en plein hiver, eh bien, ces restrictions sont encore bien loin de répondre à l'urgence.
Michel Paul en direct de Jérusalem. Et sur le plan humanitaire, par ailleurs, Israël annonce ce matin mettre fin aux activités de Médecins sans frontières dans la bande de Gaza d'ici au 28 février. L'ONG ayant refusé de fournir la liste de ses employés palestiniens justifie le gouvernement israélien. Pour tracer la voie à un règlement du conflit en Ukraine, les prochaines négociations trilatérales entre Kiev, Moscou et Washington reprendront mercredi à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Annonce faite par Volodymyr Zelensky après une première réunion de ce type la semaine dernière, au cours de laquelle les négociations ont été très difficiles, d'après le président ukrainien, en particulier sur les concessions territoriales réclamées par Moscou. Hier, les émissaires américains et russes, Steve Witkoff et Kirill Dmitriev, ont eux salué des discussions constructives lors d'une rencontre en Floride. La Russie semble œuvrer à la recherche de la paix, estime l'envoyé spécial de Donald Trump. Et ce, alors qu'une nouvelle frappe russe ce matin sur une maternité de Zaporijjia en Ukraine a fait au moins 6 blessés. Le guide suprême iranien sort de son silence pour condamner les récentes manifestations en Iran. Ali Khamenei les qualifie de coup d'État et met en garde les États-Unis. Une attaque américaine contre la République islamique déclenchera une guerre régionale, menace l'ayatollah. Alors qu'une dizaine de navires militaires américains sont déployés dans le golfe arabo-persique, dont le porte-avions l'USS Abraham Lincoln. Mais la pression s'accentue aussi du côté de l'Union européenne, qui a inscrit sur la liste des organisations terroristes les gardiens de la Révolution. En représailles, l'Iran a décidé ce matin de classer comme groupe terroriste les armées européennes. Ce sont des élections cruciales qui se déroulent aujourd'hui au Costa Rica. Le pays d'Amérique centrale, longtemps réputé pour sa stabilité, pourrait bien basculer dans le populisme. La candidate favorite dans les sondages, Laura Fernandez, promet d'opérer un virage autoritaire après une campagne axée sur la sécurité dans le pays en proie à un trafic de drogue en pleine expansion. Bonjour Tania Rodriguez Echavarria.
Bonjour.
Vous êtes professeure de sciences politiques à l'Université du Costa Rica, chercheuse au sein du laboratoire CIEP en direct de San José, au Costa Rica, où il est précisément 6h39. Merci d'être en direct avec nous sur France Culture. Alors, qui est exactement Laura Fernandez, cette candidate du Parti Souverain du Peuple, parti conservateur actuellement au pouvoir?
Laura Fernandez, c'est une politologue qui a monté dans plusieurs institutions, mais sans plus. Je pense qu'elle a été ramenée au parti Pueblo Soberano, qui est le parti actuellement officialiste. Elle a une personnalité où les chercheurs actuellement considèrent qu'elle a été utilisée un peu comme comme une marionnette du président. Elle est en ce moment en train de dire que, bon, une fois élue, le président serait le ministre de la présidence, le président actuel, Rodrigo Chávez. Elle a une présence très faible dans les débats, dans les espaces publics. Cependant, elle a plus du 40% selon les sondages du CIEP de soutien du pays, des électeurs.
Et ces élections présidentielles sont aussi des élections législatives, et c'est tout l'enjeu de ce scrutin, parce que lors des précédentes élections, Rodrigo Chávez avait certes été élu, mais sans majorité au Parlement. Or, ici, si Laura Fernandez l'emporte, elle pourrait bien, et majoritaire au Parlement, elle pourrait bien réformer la Constitution et la justice.
Exactement. En fait, elle, ce qu'elle demande aux électeurs, c'est d'avoir 40 députés à l'Assemblée nationale. Ces 40 députés seraient la quantité idéale pour pouvoir convoquer à une assemblée constituante et reformuler la constitution costaricienne. Mais c'est pas juste pour ça. Exactement ce que vous parlez, c'est qu'avec cette assemblée constituante, elle peut maintenir une de ses objectifs, c'est mettre en place la réélection consécutive. Et ensuite aussi reformuler non seulement les institutions publiques, mais aussi spécifiquement nommer les magistrats de la Cour pleine et de la Cour constitutionnelle. Donc le système de contrôle n'existerait plus. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait des années que ce gouvernement a mis en place tout un système de critiques et en essayant de créer des doutes par rapport à des institutions très importantes comme le Tribunal suprême des élections, qui est une institution hyper très forte au Costa Rica et qui a beaucoup, bon, qui avait historiquement beaucoup de légitimité au sein des électeurs. Et on est dans la première partie de dire que cette institution solide est mise en doute en ce moment par cette candidate.
Est-ce que vous redoutez tout simplement une fin de l'état de droit au Costa Rica en cas de victoire de Laura Fernandez?
C'est notre plus grande préoccupation, notamment parce que en ce moment, c'est clair qu'elle a un grand soutien. Et je pense que le discours populiste a eu un très fort impact dans les électeurs. Cependant, les dernières deux semaines, il y a un mouvement alternatif, je pense, de plusieurs partis qui sont divisés, mais qui sont ensemble en train de discuter la nécessité de défendre la démocratie et notamment l'état des droits.
Alors, la situation sécuritaire au Costa Rica s'est considérablement dégradée, ce sur quoi a fait campagne, d'ailleurs, Laura Fernandez. Le pays était pourtant considéré comme l'un des plus sûrs d'Amérique, on le surnomme d'ailleurs la Suisse d'Amérique centrale. Est-ce que c'est pour cette raison que les promesses sécuritaires de cette candidate séduisent les électeurs, ou vous y voyez d'autres raisons?
Bon, d'abord, c'est clair que la question de la sécurité est devenue quelque chose d'urgent et important dans les débats. Cependant, le gouvernement qui est officialiste, qui est dans le pouvoir, a plutôt réduit l'investissement dans tous les organismes de contrôle, notamment la police et l'organisme d'inspection judiciaire. Donc, c'est eux un peu les responsables de la réduction de tous les acteurs qui sont dans responsables de la sécurité dans le pays. Mais je pense que plus que ça, le discours qui a calé, c'est plutôt un discours populiste qui dit qu'il faut changer tout, qu'il faut tout reformuler pour que la chose soit meilleure. Et je pense qu'ils ont joué avec un mécontentement de la société que depuis très longtemps n'a pas pu vivre, même s'il y a eu une croissance, entre guillemets, économique, cette croissance ne s'est pas distribuée. Et je pense que le pays est devenu de plus en plus polarisé, et notamment plus inégal. Voilà. Les classes sociales se sont distanciées.
Voilà. Et certains analystes soulignent aussi l'affaiblissement de l'État-providence, finalement.
C'est un peu quelque chose de très intéressant, parce que c'est le même gouvernement qui a réduit l'aide ou l'argent qui était fourni pour la santé et l'éducation. Donc c'est eux un peu les responsables aussi de cet affaiblissement de l'état de providence qui était très important, notamment le système de santé publique.
Alors en quelques mots, comment vous pouvez expliquer finalement ce succès des dirigeants populistes qui parviennent à s'emparer peu à peu de toute l'Amérique latine? On l'a vu avec Bukele au Salvador, mais aussi au Honduras, en Bolivie, au Pérou.
Je pense que c'est aussi on a arrêté d'investir en éducation. Je pense que la population et les électeurs ont de moins en moins des capacités peut-être de regarder, de voir derrière les discours et les débats. Et je pense que le discours populiste qui demande un peu un chaos, un changement radical, etc., est très présent dans les communautés, notamment rurales et dans les zones de frontières, qu'ils sont dans une situation de pauvreté et d'exclusion. Et je pense que les gouvernements intérieurs à ce gouvernement, notamment le Parti Action Citoyenne et le Parti Libération Nationale, ils ont mis en place des politiques assez importantes pour le centre, pour les villes, mais pas pour la campagne, pour les territoires ruraux. Donc je pense que c'est beaucoup d'éléments qui mettent en place cette dynamique. Voilà, c'est des années.
C'est entendu. Merci beaucoup Tania Rodriguez Echavarria, professeure de sciences politiques à l'Université du Costa Rica en direct sur France Culture. Et merci également à Loïse Guérin pour la préparation. La météo qui sera pluvieuse toujours cet après-midi. La perturbation se décale lentement vers l'est. Les éclaircies reviennent à l'arrière de la Bretagne au Poitou-Charentes. Les températures maximales atteignent 5 à 10 degrés sur la moitié est, 10 à 14 degrés sur les autres régions.